Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Secrétaire, bonsoir. Bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo a souligné les opportunités de la guerre commerciale américano-chinoise. Le gouvernement de Java occidental offre à la Belgique une réunion triangulaire Rebana. Le ministère de l'Industrie accélère la construction des zones industrielles halal. L'agence de gestion de la zone de Sabang prépare des terrains pour les investisseurs à Sabang. L'Indonésie mobilise son soutien des membres du conseil de l'OMI pour la période 2019 à 2021. Et enfin, la construction des magasins indonésiens à Sebatik sera faite en 2020. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a reçu mercredi au Palais Merdeka à Jakarta des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie et l'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs HIPMI. Le président a déclaré que les conditions de la guerre commerciale entre les États-Unis et la République populaire de Chine n'est pas encore terminée. Selon le président, cette condition doit être profitée comme l'opportunité pour les entrepreneurs indonésiens afin d'augmenter l'économie. Il a donné les exemples l'opportunité dans le secteur du textile. Auparavant, ce secteur était profité par la Chine dans l'activité des exportations aux États-Unis.
Saya melihat misalnya kayak pasar di Amerika yang sebelumnya dimasuki produk-produk dari Tiongkok.
Je vois par exemple le marché américain où était auparavant il existe des produits en provenance de Chine. Cela peut être une opportunité pour nous aussi pour augmenter notre capacité pour que nos produits puissent y entrer. Par exemple, les produits textiles, les vêtements qui étaient autrefois remplis avec les produits de là-bas. Maintenant, parce qu'ils sont en conflit, nous pouvons les remplir. Je pense que des opportunités comme celle-ci que nous devons voir en détail et tirer le meilleur parti de nous peuvent augmenter nos exportations. À la même occasion, le président Joko Widodo a également demandé aux entrepreneurs de faire part de leurs idées sur les efforts que pourrait faire par le gouvernement pour améliorer l'économie indonésienne. Cela est lié aux difficultés rencontrées par les entrepreneurs pour développer leurs activités en Indonésie et à l'étranger, y compris dans l'utilisation des opportunités de guerre commerciale entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Le gouverneur Java Occidental, M. Ridwan Kamil, a offert mercredi à l'ambassadeur de Belgique en République d'Indonésie, Stéphane de Lucker, la région triangulaire d'Urbana qui couvre les régions de Cirebon, Patimban et Kertajati. Le gouverneur, après avoir reçu la visite de l'ambassadeur de Belgique, a déclaré que l'ambassadeur de Belgique était intéressé par les régions de Cirebon, Patimban et Kertajati où elle deviendrait une zone économique spéciale. Dans 3 ou 4 mois, le ministère de la coordination des affaires économiques est en train de sauver le statut de la région. Ridwan Kamil a également proposé aux investisseurs belges un certain nombre d'investissements et de coopération dans le secteur de l'élevage, notamment en ce qui concerne le bétail bleu belge. Cette coopération deviendra un nouvel espoir d'autosuffisance en viande de bœuf dans l'ouest de Java. Le ministère indonésien de l'Industrie accélère la construction des zones industrielles halal dans le pays. Certaines zones industrielles sont conçues avec des systèmes et des installations permettant de développer des industries produisant des produits halal conformément au système de garantie des produits halal. le directeur de zonage industriel de la Direction générale de la résilience, du régionalisme et de l'accès à l'industrie internationale du ministère de l'Industrie, Ignatius Warsito, a indiqué dans sa déclaration à Jakarta mercredi qu'il y avait 4 zones industrielles qui font partie du projet de développement des zones industrielles halal en Indonésie, telles que Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate, Pulau Gadung et Modern Cikande Industrial Estate. Le développement de ces zones est l'un des efforts visant à soutenir la mise en œuvre de la certification de produits halal le 17 octobre prochain. L'agence de gestion de la zone de libre échange et de port franc de Sabang a préparé des terrains pour les investisseurs souhaitant investir dans la ville de Sabang et au sous-district de Pulau Aceh dans la résidence d'Aceh Besar. C'est ce qu'a affirmé le chef par intérim de l'agence de gestion de la zone de libre échange et du port franc de Sabang, Razwardi, en marge de la signature de la coopération avec l'agence de gestion du pétrole et du gaz d'Aceh à Sabang mercredi. Il a ajouté, les deux régions étaient incluses dans la zone commerciale et le port franc de Sabang. Le gouvernement indonésien mobilise le soutien des pays membres de l'Organisation maritime internationale, OMI, dans le cadre de la candidature de l'Indonésie comme membre du Conseil de l'OMI à la catégorie C pour la période de 2019 à 2021, lors d'une pause café à la 101e réunion de la science du Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale à Londres, en Angleterre, mardi. Le directeur général des transports maritimes, Agus Hapurnomo, en tant que chef de la délégation indonésienne à cette science, a déclaré que l'Indonésie s'est à nouveau présentée comme membre du Conseil de l'Organisation maritime internationale pour la catégorie C, dont l'élection aura lieu à la séance de l'Organisation maritime internationale. Dans sa déclaration reçue par Antara à Jakarta mercredi, il a expliqué qu'en tant que membre du Conseil, l'Indonésie avait un pouvoir de négociation élevé et jouait un rôle important et stratégique dans le secteur des transports maritimes. Même l'Indonésie est impliquée dans la détermination de l'orientation et de la politique d'élaboration de règles maritimes internationales qui influent également sur les politiques maritimes nationales. Hartono, responsable du service de l'industrie, du commerce et des coopératives des petites et moyennes entreprises de Kalimantan du Nord, a déclaré que la réalisation de la construction du magasin indonésien à Sebatik à Nunukan était ciblée en 2020. Comme l'a cité Antara, concernant la valeur du budget nécessité et l'image physique du bâtiment vient d'être connue des résultats de la planification effectuée par le consultant cette année. Hartono expliquait mercredi à Tanjung Selor que la construction prévue de la boutique indonésienne dans le district de Sebatik était une idée du gouverneur de Kalimantan du Nord, Irianto Lambri. Après, une idée similaire avait été réalisée dans le district de Krayan, la résidence de Nunukan. L'arrière-fond de la construction du magasin indonésien est l'existence des disparités des prix dans les zones frontalières élevées. En outre, en raison de la dépendance des habitants de la région avec des produits de l'étranger. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, l'Indonésie deviendra-t-elle le cinquième plus grand PIB en 2030? Le classement d'Indonésie en tant que pays ayant la plus forte croissance économique a continué à progresser depuis 2000 et se situe à la position 13. En 2015, le classement d'Indonésie atteint la 7e position. Les résultats de l'étude du Fonds monétaire international FMI montrent que l'Indonésie se classera au 6e rang mondial avec la plus grande économie en 2023. Elle se classe 5e en 2030 et 4e en 2050. Si en 2023 elle passe à la 6e position, l'Indonésie passe la Russie, le Brésil, l'Angleterre et la France. L'Indonésie est également le seul pays de la région de l'Asie du Sud-Est à figurer dans le top 10 du produit intérieur brut mondial. Cette prédiction, basée sur des études du FMI, est-elle une réalité? De nombreux observateurs sont optimistes que la prévision du FMI va se réaliser. Le principal expert au député 3, chargé de l'économie du bureau du personnel présidentiel, Trianuarti, est optimiste que les prévisions du Fonds monétaire international se réaliseront. Selon Tri, la bonne augmentation de la consommation publique est l'un des capitaux de cette croissance, car la consommation représente encore plus de 50% de la croissance du produit intérieur brut indonésien. En outre, la facilité accrue de faire des affaires et d'investir est également des facteurs soutenants. Pour pouvoir passer à la cinquième et même à la quatrième position, comment la façon? L'une des conditions à remplir par l'Indonésie est la qualité des ressources humaines. Pour améliorer la qualité des ressources humaines, l'éducation est l'un des facteurs clés. En ce qui concerne l'éducation, le gouvernement indonésien doit donner l'attention à la qualité des diplômés de l'enseignement primaire. La réussite de l'enseignement secondaire et supérieur dépend largement de la qualité de l'enseignement primaire. Le nombre d'enfants fréquentant l'école primaire est certes en augmentation, mais il ne correspond pas à la qualité des diplômés de l'école primaire. Selon les résultats d'une étude menée par le Programme national d'assistance indonésien sur la compétence des élèves de l'école primaire, il en résulterait que la maîtrise des mathématiques, des sciences et la maîtrise de la lecture étaient encore inexistantes. Sur la base des résultats de l'étude, le gouvernement indonésien devrait améliorer la qualité des diplômés de l'enseignement primaire. Pour cette raison, la qualité des enseignements est la clé. Si le peuple indonésien veut devenir véritablement une nation avec le cinquième plus grand produit intérieur brut au PIB en 2030, le quatrième en 2050, le gouvernement doit préparer des enseignants de qualité afin que les ressources humaines indonésiennes aient de grande qualité. C'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 13 juin. Le 13 juin 1921, pour la première fois, des Palestiniens ont opposé une résistance armée au gouvernement colonial anglais. La résistance qui s'est manifestée au cours des premières années du colonialisme anglais a mis en évidence une forte réaction des Palestiniens face aux diverses politiques dirigées par l'anglais dans la région. Comme indiqué dans l'accord de Balfour de 1917, l'anglais s'est déclaré le principal soutien des colons juifs dans les territoires palestiniens jusqu'à la formation d'un État du Grand Israël dans cette ville. Le 13 juin 1944, pour la première fois, des missiles terrestres à longue portée ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le missile nommé V1 a été tiré par les troupes allemandes nazies dont la cible était la région anglaise. Auparavant, l'Allemagne bombardait la région anglaise avec des missiles tirés d'avions de guerre. Cette opération était plus risquée pour l'armée allemande, tout en coûtant plus cher. Pour cette raison, l'armée allemande a finalement essayé de produire ses missiles de terre en terre. Après la guerre, les pays du monde imitent et développent ce type de missile. Le 13 juin 2000, première réunion entre le président Kim Dae-jung de Corée du Sud et Kim Jong-il de Corée du Nord à Pyongyang. Le président sud-coréen Kim Dae-jung a visité Pyongyang pour assister à un sommet intercoréen sans précédent avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il. Les deux dirigeants ont adopté une déclaration de paix commune après que la réunion des 13 et 15 juin a convenu à promouvoir l'union indépendante et coopération humanitaire et économique. La réunion a donné lieu à une série de réunions de familles séparées par la guerre de Corée de 1950 à 1953 et le lancement d'une zone industrielle commune dans la ville frontalière de la Corée du Nord, Kaesong, en 2004. C'est l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Être Indonésie, chantée par Effect Rumah Kaca. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée L'Indonésie va réexporter des déchets de plastique illégaux. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya, a souligné que l'Indonésie réexporterait des déchets de plastique illégaux. Elle a déclaré à Jakarta lundi que l'entrée illégale de déchets plastiques en Indonésie n'était pas pour la première fois. En 2015 et 2016, l'Indonésie a également réexporté des dizaines de conteneurs. Des indications d'importation de déchets plastiques se trouvent dans plusieurs régions d'Indonésie, telles que Gresik et Java Oriental. Certains types de déchets tels que les copeaux de plastique mélangés à du papier non recyclable sont généralement utilisés pour brûler du tofu et les déchets de plastique dont la forme varie sous la forme de bouteilles et de déchets. L'entrée des déchets plastiques en Indonésie a déjà été mise en évidence par l'observation écologique et conservation des zones humides ou écotone. Les déchets plastiques australiens sont qualifiés de contrebande via l'importation de papier usagé. Ce papier usagé est importé dans le cadre d'activités industrielles en Indonésie. Fajri Fadila, chercheur au Centre indonésien pour le droit de l'environnement, a déclaré que le gouvernement devrait enquêter sur le fait d'importer des déchets plastiques et révoquer l'approbation d'importation pour les importateurs de producteurs de papier qui négligent les déchets plastiques. En 2018, les données du Bureau central de la statistique indiquent l'augmentation des importations de déchets plastiques indonésiens de 141%, soit près de 283 000 tonnes. Ce chiffre, qui correspond au plus haut niveau d'importation de déchets plastiques des 10 dernières années. Mais l'augmentation des importations de déchets plastiques ne s'accompagne pas des importations. En 2018, les exportations ont diminué de 48%, soit environ 98 000 tonnes, et ce chiffre indique qu'il y a environ 185 000 tonnes de déchets en Indonésie, sans compter la charge que représente la gestion de déchets domestiques dans leur propre pays. Un activiste écologique de Bali Focus, M. Muhammad Adi Septiono, a également déclaré que l'Indonésie devait anticiper l'impact du programme EP national de la Chine qui limite strictement l'importation de déchets plastiques. Ce pays a déjà absorbé 45,1% des déchets mondiaux, mais depuis mars 2018, ses importations de déchets sont limitées. C'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Cinta ini.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée « Ne meurs jamais » chantée par Mita Lestari. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel intitulé Mi Kotlok, la limang typique de Cirebon. Les nouilles ne sont pas de la nourriture indonésienne authentique, mais ils sont très faciles à trouver dans de nombreuses villes d'Indonésie. Il existe de nombreuses variantes d'aliments à base de nouilles, et chaque région a sa propre variante alimentaire. Comme par exemple, si vous vous rendez à Cirebon, dans l'ouest de Java, vous trouverez la nourriture à base de nouilles nommée Mi Kotlok. Elle a été créée par M. Eddy, propriétaire du restaurant, en 1945. Mi kotlok ou les nouilles de kotlok est l'aliment typique de Cirebon. Ils sont mélangés avec des germes de haricots, le chou, des morceaux de tranche de poulet et des œufs. Et ensuite, ajoutez le lait de coco et la farine de maïs. Vous trouverez le plus célèbre mi kotlok à Cirebon, dans le village de Gombang, Plumbon, à environ 10 km à l'ouest du centre-ville de Cirebon. Le prix par portion environ 10 000 jusqu'à 20 000 rupiah. Vous pouvez cuisiner cet aliment à la maison parce que les ingrédients sont facilement disponibles, tels que les nouilles jaunes, le chou coupé en tranches, les œufs de poulet bouillis, le poulet déchiqueté, l'oignon en tranches, céleri haché, le jus de citron, la sauce de soja et les oignons frits. Alors que la purée d'assaisonnement est seulement l'oignon, l'ail, les crevettes séchées et l'huile de cuisson. Chers amis, c'était un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta, intitulé « Mi Kotlok, l'aliment typique de Cirebon ».
Voice of Indonesia.
Pelukanku, ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah henti manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu. Oh, tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Oh yeah. Matamu, bibirmu, oh, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu,
senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu. Suara dan parasmu, senyuman manjamu, membuat aku
terjemur.
Oh, oh, oh.
Senyuman
manjamu, membuat aku rindu kepadamu.
Dirimu,
padamu, padamu.
Sekali talk setelah sangsong de Rafael Tan ang titule L'impression. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la réduction banque, voici donc l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia avec l'Indonésie en couleur. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe des Olympiades de physique remporte 5 médailles internationales. Nouvelle est venue des réalisations de 6 étudiants indonésiens qui ont remporté les médailles d'or, d'argent et de bronze à la 3e Olympiade européenne de physique, ou UFO, à Riga en République de Lettonie le 4 juin dernier. Les réalisations de l'équipe Olympiade indonésienne de physique ont été obtenues d'Ivan Der Jonathan du lycée Chrétien Mawar Sharon à Surabaya, qui a remporté la médaille d'or, et Yuanza Ramadan de SMAN en Depok, Java de l'Ouest, la médaille d'argent, et Nixon Wijaya de SMAK IPK Plutanggerang, Banten, la médaille d'argent, et Gusti Putu Surya Govinda du lycée de l'Unité Nationale de Yogyakarta a remporté une médaille de bronze. Et aussi Dava Fatani Adila du SMAN UIT de Jakarta a remporté une médaille de bronze. Et cette fois-ci, l'équipe indonésienne était dirigée par Syamsu Rosid de l'Université d'Indonésie. L'équipe était également accompagnée de Bobby et Gunara de l'Institut de Technologie Bandung, Erinto Anugraha de l'Université Gajah Mada et Juno Simangunsong de Ministère de l'Éducation et de la Culture. Dans la 3e Olympiade européenne de physique, les phases de test sont réalisées en deux étapes. Le premier test consiste en une expérience de physique menée le samedi 1er juin et en deuxième place à la théorie physique le dimanche 2 juin 2019. Chaque test durait 5 heures. Les questions sur la physique ne comportaient qu'une page avec 5 questions. Les questions de test UFO de cette année ont été réparties de manière relativement égale, comme c'est habituellement le cas pour les questions de physique ne comprennent que deux questions d'une valeur totale de 20. Ces deux questions ont été réalisées à l'aide d'un seul outil expérience, le sujet de l'expérience portait sur les ondes de radio. Le but de cette expérience était d'étudier les propriétés des ondes de radio lors de la propagation dans différents milieux, ou air et eau. Les questions théoriques portaient sur les thèmes mécaniques, électrodynamiques, thermodynamiques et hydrostatiques. Le problème est mixte, il s'agit donc d'une combinaison de plusieurs sujets liés à la physique. Le programme UFO de cette année était participé par 35 pays et une délégation de plus de 250 personnes. Les pays participants hors Europe sont venus d'Asie, Indonésie, Singapour, Malaisie, Vietnam et Bangladesh, et d'Afrique, Brésil et Arabie Saoudite avec 165 étudiants participants. Après, les participants ont pris part aux étapes de l'expérience de physique et du test de physique théorique, suivi du processus de correction par l'équipe de sélection et des valeurs modératrices. Le 4 juin 2019, la troisième édition de UFO a été fermée ainsi qu'une distribution de médailles. Chers auditeurs, c'est tout l'Indonésie en colère.
Indah senyummu
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée « Presque fini » chantée par Hadini. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix d'Indonésie à Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter une chanson indonésienne. Et cette fois, nous vous présentons la chanson pop chantée par le groupe musical Kous Plus, l'un des groupes légendaires indonésiens qui a popularisé la musique rock dans les années 70. Kous Plus a été créé en 1969. Auparavant, son nom est Kous Bersaudara. On considère Kous Plus est un pionnier de musique pop et rock and roll en Indonésie. Les célèbres chansons de Kous Plus sont légendaires et beaucoup de musiciens en Indonésie les réarrangent. L'une de ces chansons est L'histoire triste du dimanche, chantée par Marsanda en 2004. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui a le cœur brisé. Bon, serviteur, voici donc Kous Plus avec sa chanson intitulée L'histoire triste du dimanche. Bonne écoute.
Satu malam ku sendiri, tiada teman ku nanti. Di sekitar ku lihat diam, tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti
of Indonesia.
Bersinar
Voice of Indonesia.
C'est Zodi Talk, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.